Tiens Marie, toi qui es experte, j'ai besoin de tes lumières. En ce moment, on parle beaucoup de transidentité. Dis-moi, si je deviens une femme, est-ce que j'échapperai au rhume d'homme?
Pardon?
Et puis, attends, est-ce que d'avoir été un homme avant, ça me permettra de garder mon salaire d'homme, ne pas faire la queue aux toilettes sur l'autoroute, ne pas me faire siffler dans la rue? Ça m'arrangerait de pas me taper les contraintes vécues par les femmes, genre la misogynie, la stigmatisation, tu vois?
Ouh, alors Vincent, franchement, si seulement c'était aussi simple, mais non, c'est beaucoup plus compliqué, il va falloir que je t'explique un ou deux trucs.
Bonjour,
Ou bonsoir.
bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin.
Aujourd'hui, dans Le Temps d'un Lapin, on poursuit dans notre exploration des méandres de la douleur chronique en s'intéressant à une situation un peu spécifique, la douleur des personnes trans. La douleur chronique expose à des discriminations, stéréotypes, préjugés et entraîne une augmentation de la vulnérabilité des personnes concernées. Mais comment cela se passe lorsqu'elle touche ces personnes déjà vulnérables et exposées à la stigmatisation? À l'instar des critères de discrimination, la vulnérabilité se multiplie-t-elle? Souffre-t-on plus de douleurs chroniques lorsque l'on est trans? Bonjour Marie, bonjour tout le monde.
Bonjour Vincent, bonjour à tous et à toutes.
Alors avant de démarrer avec Marie, on voulait vous donner quelques précisions sur notre sujet, transidentité et douleur chronique, de quelle douleur on va parler et surtout, c'est quoi la transidentité?
Oui, ça nous paraissait nécessaire de démarrer par les bases, qu'on ait un langage commun, qu'on puisse vraiment se comprendre. Pour parler de transidentité, il faut d'abord parler du genre. Le genre, c'est le fait de s'identifier comme femme, comme homme ou autre, parce que ce ne sont pas les deux seuls genres qui existent aujourd'hui. Après, on parle d'assignation de genre, c'est-à-dire qu'à la naissance, en fonction du sexe biologique, on va attribuer à un enfant un genre. Est-ce qu'il est plutôt de genre féminin ou de genre masculin? Voilà, c'est un garçon, c'est une fille, c'est comme ça qu'on assigne le genre. Dans la question de la transidentité, alors il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, on parle de transgenre, transitude. Globalement, on va parler de personnes trans aujourd'hui dans l'épisode en espérant qu'on va couvrir les réalités de toutes les personnes qui se sentent concernées. Pour les personnes trans, en fait, le problème, c'est que le genre qu'on leur a assigné à la naissance n'est pas le genre dans lequel elles se reconnaissent ou elles se définissent. On va parler de femmes trans pour des personnes qui sont nées dans des corps avec un sexe biologique masculin et dont le genre est féminin. On va parler d'hommes trans pour les personnes qui sont nées dans un corps avec un sexe biologique féminin et dont le genre est masculin. On parlera de non-binarité pour toutes les personnes pour qui ces deux propositions ne correspondent pas à leur expression de genre. On ne change pas de sexe dans un parcours de transition ou de transidentité. La transidentité, c'est avant tout d'affirmer son genre et d'affirmer un genre qui ne correspond pas à celui qui a été assigné à la naissance. On s'appuie ici sur le guide pour les soignantes qui prennent en charge des personnes trans. On vous mettra la référence sur le blog. Et puis, la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie avait sorti un document assez similaire dans lequel vous pourrez trouver éventuellement un petit peu plus d'informations. Et du coup, ce qui était important pour moi et par rapport à la spécialisation qu'on a développée dans les derniers épisodes du podcast, c'est de préciser qu'on va vraiment parler de douleurs chroniques. On ne va pas du tout parler de la douleur potentiellement en lien avec les actes médico-chirurgicaux du parcours de transition. Le parcours de transition, il ne se résume pas à ce que le système médico-social va pouvoir proposer à ces personnes. Le plus important d'un parcours de transition, c'est d'affirmer son genre, c'est de dire que mon genre aujourd'hui est celui-ci, ce n'est pas celui qui m'a été assigné, point, ça suffit. Et nous, on va pas du tout parler de la chirurgie, on va pas du tout parler des modifications corporelles, on va vraiment parler de la douleur chronique qui peut être vécue par des personnes trans. Et notamment, on ira faire un petit focus sur une pathologie très particulière qui est la fibromyalgie.
Et donc Marie, pourquoi est-ce que tu as voulu aborder ce sujet en particulier?
Alors, comme on l'a déjà dit ici, moi je sors d'un diplôme universitaire sur les discriminations et l'accès à la santé, et je me suis intéressée à la douleur des populations vulnérables, donc en situation de discrimination, et j'ai travaillé sur le stéréotype c'est dans la tête, donc pour toutes les douleurs qui ne correspondent pas à des lésions évidentes, et notamment à travers le prisme de la maladie qui y répond par excellence, la fibromyalgie. En travaillant sur ce sujet, j'ai pu explorer à quel point plus tu vis dans des conditions complexes, plus tu es exposé à des situations douloureuses et que ces mêmes situations douloureuses, elles vont être plus longues, plus contraignantes pour ta vie et plus intenses.
Est-ce que tu peux nous dire en quoi les personnes trans sont vulnérables ou te paraissent vulnérables ?
Il y a une notion plus particulièrement en lien avec la vulnérabilité qu'on appelle le stress minoritaire, qui soutient que les personnes relevant de minorités subissent un stress chronique causé par la stigmatisation sociale continue et qui va de fait alourdir déjà le quotidien de ces personnes.
Le stress minoritaire que subissent notamment les personnes trans.
On peut le
Il n'y a
supposer,
qu'à regarder
d'ailleurs.
Une chaîne d'information en continu en ce moment pour confirmer un peu ce point-là.
Exactement. On parle beaucoup de la transidentité en ce moment, on n'en parle pas forcément uniquement de façon bienveillante et positive. On peut supposer que les personnes trans sont vulnérables et exposées au stress minoritaire, ne serait-ce que par rapport aux chiffres qu'on peut retrouver. Alors là, je vous cite des chiffres qui ont été condensés dans un petit ouvrage que je vous recommande beaucoup, qui s'appelle « La fin des monstres, récit d'une trajectoire trans » par Tal Madesta, qui apporte quand même des données objectives au décours de ce récit et qui explique que 85% des personnes trans seront un jour victimes de transphobie, qu'une personne trans sur 5 a été ou sera sans abri au cours de sa vie. Donc on parlait de facteurs de discrimination tout à l'heure et de vulnérabilité, la précarité, le fait de vivre dans la rue, c'est quand même un élément qui est hyper stigmatisant, qui est hyper problématique pour l'accès aux soins, pour l'accès à la santé. Et puis, il faut parler du versant de la santé mentale. Les personnes trans, aujourd'hui, 40% d'entre elles auront fait ou feront une tentative de suicide au cours de leur vie. Donc quand on parlait de vulnérabilité, d'exposition à des facteurs de discrimination, eh bien pour les personnes trans, il y a un cumul de ces facteurs. Et il ne faut pas oublier que dans la discrimination, le problème, c'est que ces critères, ils ne s'additionnent pas les uns aux autres. Ils ont tendance à se multiplier avec des contraintes et du coup un stress minoritaire entre autres, mais un stress et une pression sur le quotidien qui devient énorme. Moi, pourquoi je me suis interrogée sur ce sujet, c'est parce que aujourd'hui, sur les réseaux et dans la vie de tous les jours, moi, j'ai eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises et de façon assez répétitive ces dernières années des personnes trans qui parlent un petit peu de leur quotidien, qui font aussi un peu de vulgarisation et qui sont, pour moi, assez nombreuses à être victimes de douleurs chroniques. Mon impression, c'est que la prévalence de la douleur chronique chez les personnes trans, elle est assez élevée. Et en fait, je voulais faire cet épisode pour voir est-ce que c'est qu'une impression, est-ce que c'est un biais de confirmation, ou est-ce qu'effectivement, la douleur chronique, elle est vraiment très présente chez les personnes trans?
On va aborder la question de la fibromyalgie. C'est une pathologie dont on a déjà parlé dans notre 44e épisode que je vous invite évidemment à retourner écouter ou à découvrir si vous n'avez pas encore fait. Mais Marie, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer rapidement ce que c'est?
Oui, la fibromyalgie, c'est un peu la Rolls-Royce de la douleur chronique. C'est celle que personne ne veut avoir comme pathologie. C'est celle dont tout le monde parle. Tout le monde a un avis sur la question qui est plus ou moins jugeant, qui est plus ou moins stigmatisant, qui est plus ou moins avéré, appuyé sur des faits. Donc c'est un petit peu complexe, mais c'est la vitrine de la douleur chronique la plus complexe. Et c'est à celle-ci que je voulais m'intéresser parce que ça reste un de mes domaines d'affinité par rapport à la littérature scientifique. La fibromyalgie, c'est une pathologie douloureuse qui se présente avec des douleurs chroniques qui sont diffuses, qui vont toucher plusieurs sites, c'est-à-dire qu'en gros, on a mal très fort à plusieurs endroits différents. Ça peut fluctuer d'un endroit à un autre, à ces douleurs très intenses sans forcément beaucoup de lésions associées, c'est-à-dire qu'en général, les personnes vont faire des examens qui vont revenir normaux ou subnormaux. On va leur dire qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il n'y a rien qui explique de telles douleurs. C'est là où le préjugé, le stéréotype « c'est dans la tête » a tendance à arriver et à mettre un petit coup derrière la nuque à des personnes qui vont déjà très mal. Ces douleurs, elles vont s'associer à des troubles cognitifs. On peut avoir un brouillard cérébral, on peut avoir des manifestations un peu bizarres comme une hypersensibilité à la lumière, aux odeurs, des troubles de concentration, une difficulté à suivre le fil d'une conversation. Avec ça, on peut avoir des migraines, des douleurs au niveau des articulations temporomandibulaires, un syndrome du côlon irritable. En général, se constitue d'une alternance de diarrhée et de constipation avec des douleurs abdominales qui peuvent être très intenses, sans forcément un lien très évident avec la nourriture. Un syndrome extrêmement large qui touche beaucoup de sphères différentes et chacune d'entre elles est touchée de façon très intense et très invalidante. C'est une pathologie dont les critères diagnostiques ont vachement évolué ces 50-60 dernières années. Il y a plein de professionnels qui n'utilisent pas les mêmes critères diagnostiques. La dernière grosse actualisation, elle date de 2016, qui fait que maintenant, on est essentiellement sur un diagnostic clinique. On parle de douleur généralisée, définie par la présence de douleurs dans au moins 4 des 5 régions citées, donc c'est par le corps en plusieurs régions différentes, des symptômes qui datent depuis plus de 3 mois, 2 scores, donc l'index de douleur diffuse et l'échelle de sévérité des symptômes, qui doivent être suffisamment élevés pour exprimer une pathologie très invalidante.
Donc déjà, une des premières difficultés de la fibromyalgie, c'est que c'est un diagnostic qui est clinique et on connaît l'amour des professions de santé pour ce qui est des diagnostics cliniques.
Effectivement, on n'aura pas un test sanguin ou une imagerie aujourd'hui qui pourrait nous dire, voilà, là, on est face à une fibromyalgie. On a longtemps pensé que la fibromyalgie, c'était un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire que si on ne trouve rien d'autre, c'est ça. Mais en fait, plus maintenant. Le diagnostic de fibromyalgie, il est valide indépendamment d'autres diagnostics. Apparemment, on est à 10 à 20% de fibromyalgie chez les patients qui ont déjà une spondylarthrite. Donc, c'est une pathologie qui se cumule à d'autres. Ce n'est pas parce qu'on a une fibromyalgie qu'on n'a rien d'autre. Il ne faut pas attendre de n'avoir rien trouvé pour chercher des stratégies de traitement de la douleur qui pourraient plus répondre à un tableau qui nous évoquerait une fibromyalgie qu'à autre chose. C'est-à-dire que la recherche diagnostique, elle ne doit pas éclipser la recherche de stratégies thérapeutiques. On sait aujourd'hui, vu les difficultés dans notre système de santé, à quel point le temps médical est long, l'errance médicale, elle peut être longue. Et comme maintenant, on arrive à un diagnostic qui est clinique, qui se suffit à lui-même, eh bien, si l'ensemble des critères peuvent être remplis, eh bien, on peut d'ores et déjà, dès 3 mois, commencer à se poser des questions sur quel type de stratégie on va proposer aux personnes concernées. Il faut qu'on s'habitue à travailler sur plusieurs tableaux en même temps. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas on va chercher une vraie pathologie et s'il n'y a rien, ce sera une fibromyalgie. Parce que ça, c'est facteur d'errance thérapeutique et c'est de la perte de chance. Parce que le jour où on va parler de fibromyalgie, les gens ils vont avoir des douleurs atroces, pas depuis 3 mois, mais depuis 6, 9, 12, 18, 15 ans aussi.
Et puis, l'errance thérapeutique liée au non-diagnostic de la pathologie en question pourrait être un facteur favorisant de la fibromyalgie.
Exactement. Je vais vous parler d'une étude après sur fibromyalgie et transidentité. Et dans cette étude, il y a un passage que je trouve très intéressant. En fait, ils disent que la détresse, c'est un facteur favorisant de la fibromyalgie. C'est-à-dire que globalement, les personnes vulnérables sont plus exposées à la fibromyalgie. Malheureusement, c'est un peu la double peine. Mais on ne peut pas la réduire à ça. La fibromyalgie, ce n'est pas une pathologie du stress. Ce n'est pas une pathologie de la précarité. Ce n'est pas une pathologie des gens qui ont une vie de merde, en fait. C'est important de ne pas s'arrêter à ça. Et puis, la fibromyalgie, elle produit en elle-même une détresse qui est très importante, qui va aussi favoriser l'augmentation des manifestations de la fibromyalgie. On n'a pas de fibromyalgie juste parce qu'on est stressé. Mais plus on souffre, plus on est en détresse, plus on risque de souffrir, plus on est dans une situation de vulnérabilité, plus on risque d'avoir une fibromyalgie qui va produire une détresse supplémentaire, qui va non seulement augmenter les symptômes, mais potentiellement aussi augmenter la vulnérabilité. On parlait de précarité chez les personnes trans. On imagine très bien que des personnes qui ont un syndrome douloureux chronique très invalidant, qui ne permet pas d'avoir une activité professionnelle de façon régulière, sont des personnes qui seront aussi exposées à la précarité.
Puis ce stress leur rend plus difficile l'accès aux stratégies d'adaptation efficaces.
Exactement, parce qu'il y a une consommation énergétique, on parlait de stress minoritaire tout à l'heure, être sous pression sociale en permanence, eh bien, c'est quelque chose qui va nous coûter de l'énergie, une énergie qu'on aura d'autant moins si on souffre de fibromyalgie, puisque souvent la fibromyalgie s'associe le brouillard mental, la fatigue chronique, etc.
Et alors, est-ce que c'est une pathologie fréquente ?
Justement, ça, c'est pas évident à montrer. On arrive à bien montrer que c'est une pathologie invalidante, très stigmatisée. C'est une pathologie dont on commence à comprendre, ou en tout cas définir un petit peu les contours. Maintenant, quelle est sa prévalence en population générale ? C'est assez difficile à mesurer, comme je disais tout à l'heure, parce que les critères diagnostiques ont changé en 2016, c'est pas si ancien que ça. Sur une revue de 2017, on parle de 1,78% de la population générale. Aussi surprenant que ça puisse paraître ou pas, 3,98% des femmes et 0,01% des hommes. C'est une pathologie qui est décrite comme essentiellement féminine, avec tout ce que ça implique de tout ce qui relève des critères de stigmatisation en lien avec le genre et en lien avec le fait d'être une femme. Mais il y a de grosses incertitudes sur ce ratio homme-femme qui mériterait d'être mieux exploré aujourd'hui.
Alors, Il peut être intéressant de préciser que dans le rapport de l'INSERM dédié à la fibromyalgie en 2020, il était plutôt question d'un sous-diagnostic chez les hommes et d'un surdiagnostic chez les femmes. Le rapport homme-femme serait plutôt 50-50 et ils estiment à environ 15% de la population française qui pourrait être atteinte de fibromyalgie.
Ah, donc les 2%, les 2 à 6% qui sont régulièrement cités, ce serait en lien avec une forme de sous-diagnostic de la pathologie?
Oui.
D'accord, et on pourrait imaginer monter, dépasser les 10%, 15%, waouh, c'est...
Lorsque je reçois un patient ou une patiente qui a été diagnostiquée fibromyalgie il y a 15 ou 20 ans, je vais plus spontanément aller essayer d'éliminer autre chose avant d'accepter le diagnostic qui est fait.
Mmh.
Parce que bien souvent, c'est les anciens critères de diagnostic qui ont été utilisés, ceux pour lesquels il suffisait d'appuyer sur quelques points sur le corps et produire une douleur pour que le diagnostic soit posé avec une recherche d'autres pathologies qui avaient été en général plutôt bâclées.
Le symbole du c'est une nana stressée, hystérique, théâtrale, etc., qui
Exactement.
exagère ses pathologies. Et malheureusement, il y a eu des caisses de diagnostic de fibromyalgie qui ont été faites parce que des patients qui dérangent, des patients qu'on n'arrive pas à améliorer comme on voudrait, des patients qui n'évoluent pas comme on l'attend, et avec cette idée que c'est une forme de résistance. Et puis, il y a aussi une grosse placardisation de la fibromyalgie. Quand c'était utilisé comme un diagnostic par élimination ou par défaut, et qu'on dit, bon, on a tout essayé, on n'a rien trouvé, du coup c'est ça et il n'y a rien à faire, détendez-vous, faites du yoga. Les gens à qui on a dit ça il y a 30 ans et qui ont arrêté d'essayer de se soigner parce qu'on ne leur a rien proposé d'autre, forcément peut-être que là on peut remettre quelque chose en place.
Et donc tu peux nous parler de l'étude en question?
Ah oui, je m'intéressais à cette prévalence de la fibromyalgie justement chez les personnes trans et j'ai trouvé une étude dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui qui s'appelle Pain and Transition, qui date de 2020, qui a été produite dans un service de médecine, dans un centre spécialisé, dans une clinique de transition à Tel Aviv, et qui explore en fait la prévalence de la fibromyalgie chez les personnes trans. Alors on parle ici d'une estimation de prévalence chez des patients qui sont régulièrement reçus au centre, donc des patients qui sont en soins ou qui reçoivent un suivi. Donc je parlais tout à l'heure du processus médical de transition. Ce sont probablement ici, dans cette estimation, passent sous les radars les personnes qui aujourd'hui ne bénéficient pas de soins en lien avec la transition. C'est une étude qui va analyser la prévalence de la fibromyalgie chez 115 personnes trans, 43 femmes trans et 72 hommes trans. Donc quand je parle d'hommes trans ou de femmes trans, je parle du genre d'arrivée, je ne parle pas du genre assigné à la naissance. C'est une étude dans laquelle ils vont utiliser les critères diagnostiques de la fibromyalgie dont on a parlé tout à l'heure et ils vont rajouter un questionnaire qu'on connaît bien, le SF36, qui permet d'évaluer un peu la qualité de vie des personnes souffrant de douleurs. Ils estiment que la prévalence de la fibromyalgie dans la population israélienne tourne autour des 2,5%. Donc là, on est un petit peu, comme je disais tout à l'heure, moi, sur ma revue systématique, on est autour de 2%. Et sur ces 115 personnes qu'ils ont retrouvées, aujourd'hui, 15% remplissent les critères de fibromyalgie.
C'est énorme.
On est à 6 fois plus de personnes fibromyalgiques chez les personnes trans en soins à Tel Aviv que dans la population générale israélienne. Si on reprend le rapport de l'INSERM, du coup, on est sur des chiffres équivalents à la question du sous-diagnostic. Clairement, c'est une étude, il n'y a vraiment pas suffisamment de personnes pour tirer des conclusions claires, ou en tout cas aucun lien de causalité. Les seuls facteurs prédisposant à la fibromyalgie chez les hommes trans dans cette étude, c'est l'âge et la consommation de tabac. Ne retrouve pas de corrélation avec les relations affectives, l'emploi, les éventuelles comorbidités. Il y a 24% des hommes trans qui ont une fibromyalgie, qui ont des troubles de santé mentale, mais d'après eux, il n'y a pas de corrélation existante. Donc,
de quel trouble de la santé mentale il est question ?
On parle de dépression, d'anxiété, troubles du comportement alimentaire, déficit de l'attention et d'hyperactivité, syndrome de stress post-traumatique, etc. Pour moi, par rapport à mes croyances sur la fibromyalgie, assez surprenant. Maintenant, c'est comme je disais, là, on parle de 14 personnes sur 72 dans une population spécifique, donc ce serait bien prétentieux de ma part de tirer des conclusions assez larges. Moi, c'est vraiment ce qui m'interpellait et ce pourquoi j'avais envie d'en discuter sur le podcast aujourd'hui. Le ratio 1 pour 6, en fait.
Oui. Ah oui, mais clairement.
Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de stéréotypes qui circulent sur les personnes trans. Le fait qu'il y ait de la visibilité qui augmente, ça permet à plein de gens de se poser des questions dans le bon sens, mais ça permet aussi à plein de gens, pas forcément mal intentionnés, mais complètement à côté de leur pompe, d'avoir un avis qui peut être hyper violent, qui peut être hyper stigmatisant, de faire des raccourcis très rapides. On parle de population soumise à discrimination. On a dit tout à l'heure, troubles de santé mentale avec tentative de suicide chez 40% des gens. Je crois que dans la population générale, le taux moyen de tentative de suicide autour d'une vie, il est en dessous de 5%. On est sur des ratios qui sont énormes. On est vraiment dans des situations qui sont déjà indépendamment de la douleur, potentiellement très complexes, avec une exposition aussi au risque de violence, au risque de violence sexuelle, au risque de ce qu'on disait, transphobie, précarité de l'emploi, etc. Alors il y en a qui vont très bien, heureusement, mais ce n'est pas des situations qui sont déjà des situations faciles. Et du coup, moi, ça me sidère toujours. Qu'au milieu de tous ces stéréotypes et de tous ces préjugés, de toute cette violence qu'on entend dans les médias, on oublie que si ils sont 6 fois plus sujets que la population générale à la fibromyalgie, c'est quand même une sacrée claque dans la nuque, quoi. On parle d'une pathologie qui est en plus hyper stigmatisante, mais qui est surtout hyper handicapante et hyper invalidante. Comment on fait pour faire comprendre autour de nous que ce sont peut-être des personnes dont il faut qu'on prenne encore plus soin? Des gens qui ont besoin d'un accompagnement le plus solide, le plus bienveillant, le plus safe possible, c'est celle qu'on va laisser sur le bord de la route? Ben non, en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça.
Attention, on dérive sur la politique.
Oui, mais parce que je pense que c'est politique aussi. La question de la gestion de la douleur et de la prise en charge de la douleur, elle est aussi politique.
Elle est principalement politique, au final. On se rend
Grand
compte
point.
que la politique, que notre société, c'est peut-être le facteur sur lequel il faudrait jouer pour avoir un réel impact sur toutes les problématiques de douleurs chroniques.
On a l'impression qu'on pourrait faire bouger les choses que si on parlait d'argent. Mais tu vois, les critères diagnostiques de la fibromyalgie, la frilosité à en parler tôt, si finalement, au bout de 3 mois, on peut en parler, on peut essayer de mettre en place des choses pour trouver des solutions pour que les personnes souffrent moins. Combien de temps on gagne? Si ce qu'on veut, c'est faire de parfaits petits travailleurs en capacité de travailler et de produire de la richesse. Eh ben, on gagnerait à mieux comprendre ce diagnostic. Bon, les personnes seraient gagnantes, c'est le but à la base, mais on gagnerait à accélérer le diagnostic et à développer des outils plus efficaces pour répondre aux problématiques spécifiques de la fibromyalgie.
En fait, il y a plein de problématiques de stigmatisation. On retrouve le même genre de stigmatisation pour les personnes qui sont RSA, par exemple, où il y a une représentation chez certains en disant que ces personnes sont des fainéantes, qu'elles n'ont pas envie de travailler. Et les études ont montré que la majeure partie des personnes au RSA préféreraient être en capacité de travailler.
Là, le stéréotype de la fainéantise, il est aussi très présent chez les personnes fibromyalgiques. Et si tu as le malheur d'être une personne trans, d'être au RSA et d'avoir une fibromyalgie, je ne sais pas sur quoi on va avoir envie de taper, mais on va vouloir taper sur tout. Et plus on va taper, et plus tu vas souffrir. Et ce qui est complètement à l'encontre, moi, je trouve, de tous les principes de santé publique, de santé globale, de santé à l'échelle de la société, en fait.
Oui, mais ça rentre aussi en contradiction avec la culture des soignants en termes de classe. C'est-à-dire que les soignants sont principalement issus de classes favorisées dans lesquelles il y a encore cette croyance qu'ils ont acquis leur position grâce à leur mérite. Et puis, je pense qu'il y a aussi un gros impact de la culture des soignants, cette fois pas du côté économique, mais du côté culturel ou religieux. Chez les soignants, on retrouve encore beaucoup des choses comme la clause de conscience pour le médecin qui, au cours d'une consultation, a le droit de refuser de prescrire une contraception d'urgence parce que c'est contraire à ses convictions personnelles ou religieuses. Cette question de la clause de conscience qui ressort encore aujourd'hui pour les questions d'aide active à mourir ou de
D'intérêt.
sédation profonde. si je prends mon exemple, j'ai jamais été vraiment très religieux, donc ça, c'est pas vraiment très coûteux pour moi intellectuellement de progresser sur la question de la transidentité. Par contre, je pense que pour quelqu'un qui a été élevé dans une culture très religieuse, que ce soit catholique, musulmane, juive ou autre, dans lesquelles il y a les hommes, les femmes, et qu'entre les deux, il n'y a rien qui existe, ou qu'il n'y a pas d'autres possibilités, c'est un grand écart, beaucoup plus difficile à faire.
Pour moi, ça revient beaucoup à notre culture de cette espèce de besoin de préjuger de la situation, de se reporter plus à notre jugement qu'à ce que la personne en face va nous dire. Quand on parle de genre, homme, femme ou autre, dans autre, il y a plein de choses. Il y a agenre, donc sans genre, mais il y a aussi xénogenre, un genre qui ne serait pas, qui ne relèverait pas du genre humain. Et quand bien même ça ne rentrerait pas dans mon système de compréhension du monde, si c'est le système de compréhension du monde de la personne qui est en face de moi et que c'est dans ce système qu'elle se sent bien, c'est pas parce que moi je le comprendrais pas à la hauteur de ma lecture que ça ne doit pas exister et que ça mériterait mon jugement. Moi j'aimerais qu'on arrive à mettre en avant que le fait d'être une personne vulnérable, d'être soumis à la stigmatisation, à la détresse en lien avec un contexte socio-économique, un contexte professionnel, un contexte familial, un contexte d'identité de genre ou d'orientation sexuelle, ça entraîne une exposition supplémentaire au risque de douleur et de douleur plus intense, plus longue, plus handicapante, sans pour autant que ce soit, que ça relève du « c'est dans la tête », à savoir « c'est vous qui inventez, on ne peut rien faire pour vous ».
Et quand bien même ce serait dans la tête, on peut faire quelque chose.
Oui, voilà. C'est dans la tête, c'est une manière de nier et d'exclure toutes les douleurs qui ne correspondent pas à notre système de lecture de la douleur, nous, en tant que soignants. Même si aujourd'hui, on sait exactement comment fonctionnent ces douleurs, enfin, à peu près bien, et qu'on sait quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer, et qu'il y a beaucoup de leviers contextuels qui seront difficiles à mobiliser, bah, notamment la précarité, l'environnement social, etc. Et en fait, cette placardisation fait qu'on a maintenant tous très peur, personnes concernées et soignants, d'évoquer ça, d'évoquer ce que le contexte de vie va faire à notre cerveau, à notre corps, à notre tête, et comment est-ce que les réactions de notre cerveau, de notre corps, de notre tête, tout ce que vous voulez, vont être aidantes ou handicapantes.
C'est l'éternel problème du modèle biopsychosocial, dans lequel le social est toujours le parent pauvre, pour lesquels on a le moins de moyens d'action possible.
Exactement.
Ce dont on se rend bien compte avec tout ça, et avec cette étude notamment, hein, c'est que, au final, encore une fois, la problématique de la douleur chronique nécessite une approche sociale, une approche sociétale, et pas simplement une approche médicale.
Oui.
Et qu'on pourra faire tous les progrès du monde dans le dépistage, le diagnostic et les traitements, mais que si on ne fait pas évoluer notre société, eh ben on continuera de faire apparaître, de favoriser l'apparition de ce genre de problématiques chez tout un tas de personnes.
Et moi, j'aimerais conclure avec un petit mot pour nos confrères, nos consoeurs, les professionnels de santé. Si vous êtes confrontés à des gens qui ont des préjugés ou des croyances sur les personnes trans, n'hésitez pas à simplement rappeler les chiffres, n'hésitez pas à simplement ramener vers quelque chose qui, pour moi, est hyper important. C'est-à-dire que avant de juger les personnes trans, de toute façon, avant de juger en général, n'oublions pas qu'il y a des personnes qui souffrent et qui sont vulnérables avant cela. C'est-à-dire que se moquer d'une population qui présente un taux de tentative de suicide au cours d'une vie à hauteur de 40% des personnes concernées, c'est vraiment, vraiment pas joli.
Pas la meilleure des choses à faire.
Et c'est aussi en partie notre rôle que de dire « Non mais là, vous êtes en train de stigmatiser des personnes qui sont déjà suffisamment en souffrance comme ça, en fait. » Merci Vincent de m'avoir tenu le micro. Pour ce sujet qui était important pour moi, j'espère qu'on a été clair et qu'on n'a pas fait trop de généralités. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt.
Et sur le temps d'un lapin.